RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce 8e numéro de la 7e saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie en DAB+. Rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, c'est une équipe réduite à sa plus simple expression que nous retrouvons. Alors, outre votre serviteur, j'ai le plaisir, bien sûr, d'accueillir notre vénérable préféré, Christian Mosna. Salut, Christian.
Bonjour à tout le monde.
Au pied des Alpes, Fred Protin a répondu présent à l'appel. Salut, Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Et puis, dans l'urgence, mais il est arrivé juste à temps après avoir bien sûr bâché sa piscine à débordement, c'est Manu Duval qui nous rejoint. Bonjour Manu.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Et enfin, pour mettre en onde cette émission, après un intérim, je tiens à le souligner, brillamment assuré par Nathalie Dessauce la semaine dernière, c'est le grand retour de GG au doigt de fée, Jérôme Bozon, qui a pris une semaine aux Bahamas, donc revient mettre en onde cette émission.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu de Côté Ouvert, aujourd'hui, nous ferons un gros focus sur le top 14, puisque nous vous convions, ni plus ni moins, en toute modestie, à une sorte de conseil de classe du top 14 après 12 journées. Tiens, étrange, le top 14 est pourtant une Marseillaise, oui, parce que quand même, en guise de mise en bouche, je vous propose de revenir un petit peu sur l'actualité un peu moins récente, mais qui a été une des conséquences de cette tournée d'automne lors de la deuxième rencontre contre l'Afrique du Sud. C'était le carton rouge qui a frappé Antoine Dupont, vous rappelez, à deuxième mi-temps, on joue la 48e minute, et puis faute indiscutable sur Chelsea Colby de notre Antoine National, qui, Colby était en l'air, Dupont le déséquilibre avant même qu'il ait pu récupérer la passe au pied, magnifique d'ailleurs, de Clerc. Conséquence, ben, faute logique, 4 semaines, vous rappelez, de sanctions et de suspensions. Bon, la fourchette maximale, c'était quand même 8 semaines, donc il aurait pu ramasser beaucoup plus. Alors jusque-là, qu'est-ce que vous allez me dire, pourquoi on commande? Parce que dans le même temps, sur ce match, vous vous rappelez aussi, première mi-temps, le troisième ligne du toit avait littéralement ciblé à coup de tête la pommette d'Anti, qui lui était en position, on va le dire, sur un rug, donc d'après les règlements, pas forcément vulnérable. Conséquence, simplement 3 semaines de sanctions et de suspensions pour Dutoit contre 4 semaines pour Dupont, ça a fait pas mal réagir. Ouais. Au final, messieurs, cette sanction, je m'adresse d'abord à Christian, cette sanction, elle a été rapportée à non pas 4, mais 2 semaines de suspension. C'est un peu plus logique parce que ça faisait 2 poids 2 mesures, non Christian?
Oui, si on compare les deux actions, puisque c'est dans le même match, donc on a tout loisir de comparer. Le geste les deux gestes sont tout à fait répréhensibles. Maintenant, il y a eu une mesure importante, enfin, une sanction, on va dire, beaucoup plus importante sur Dupont par rapport à ce qu'a fait, Dutoit. Alors, il paraît que, à la vidéo, ils ont, semble-t-il, pensé que un deuxième Sud-Africain avait poussé Dutoit vers le joueur français d'Anti, ce qui aurait fait peut-être que ça a été atténué. Mais bon, pour moi, c'était beaucoup plus sévère. Normalement, il aurait dû prendre plus.
Fred, au final, c'est bien que Dupont n'ait pris qu'entre guillemets 2 semaines, surtout que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas connu pour son casier judiciaire. Donc, quelque part, j'allais dire, tout est bien qui finit bien. Et d'ailleurs, Dupont a pu rechausser les crampons pour la 12e journée de top 14.
Oui, tu as bien ciblé la problématique. C'est vrai que Dupont, c'est la première fois qu'il prenait un rouge. Bon, joueur qui est quand même exemplaire sur le terrain, reconnu par les arbitres. Il dialogue bien avec les arbitres. Il rentre pas dans les excès. Bon, il a fauté.
Il a fauté, nous a dit Fred. Et toi, Manu, tu partages cette idée, c'est-à-dire en fait une sanction de 2 semaines qui était amplement suffisante au regard de la faute et du pédigré d'Antoine Dupont.
Oui, surtout que c'était une action de jeu. On voit bien qu'il y va pas non plus.
pour faire mal. Et puis de suite, on voit bien qu'il s'excuse. Alors que c'est vrai que le Sudaf, quand même, c'est quand même une action quand même beaucoup plus violente. Il me semble qu'en plus Danti, il a laissé le plancher orbital, si je me rappelle bien. Donc oui, c'est quand même plus logique d'avoir une plus petite sanction. Et au regard aussi de la carrière et de ce que montre Antoine Dupont sur le terrain, surtout.
Parfait. Bah, écoutez, messieurs, tout est bien qui finit bien. Et puis nous, on va refaire un petit tour maintenant en top 14. Alors là, c'est pareil. Avant de faire ce conseil de classe du top 14, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment, parce qu'on va parler top 14 et Pro D2, mais très très vite, puisque cette semaine et la semaine passée, la presse s'est fait l'écho d'arrivée de deux joueurs de renom dans nos deux championnats domestiques professionnels. Le top 14, c'est le RCT qui avait besoin a priori à tout prix d'un ouvreur pour suppléer Aya West au poste de numéro 10. Et c'est ni plus ni moins que Dan Bigard, 33 ans, qui va s'engager le demi d'ouverture du 15 du Pays de Galles, c'est pas n'importe qui. Et en Pro D2, alors là, on tape très très haut, puisque c'est un ouvreur de 32 ans sud-africain, c'est Elton Gentis, champion du monde en 2019, pour ceux qui l'auraient oublié, qui s'engage aussi avec le SU Agen. Donc, Christian, je me retourne à nouveau vers toi. Qu'est-ce que ça dit, ça, du championnat actuellement? Il y a pénurie de 10, la formation française suffit pas à fournir, ou quand tu veux un joueur prêt, ben, souvent tu vas le chercher à l'étranger?
Oui, je crois qu'il y a... C'est surtout ça, c'est qu'en fait, ces joueurs sud-africains ou anglais ou quoi, souvent sont plus faciles à faire venir. C'est beaucoup moins compliqué que sur le marché français. Surtout que, bon, il y a eu des clubs anglais qui ont eu des difficultés financières. Donc, il y a eu une petite exode actuellement d'étrangers sur le top 14. Puis, je regardais la compo de Toulon. Hier, c'était le petit Smiley, Mathieu Smiley qui officiait en 10. Je crois que Yaya West était blessé, il me semble. Mais on s'aperçoit que c'est pas du luxe pour Toulon, en tout cas, de récupérer un joueur comme Bigard, parce que faire la saison avec un buteur qui n'est pas très fiable, Yaya West, et puis un jeune en devenir, certes, mais un jeune, Toulon était un peu obligé de mettre la main à la poche. Hein.
Fred, côté Pro D2, c'est une bonne pioche pour le SU Agen à la perspective de la fin de la demi-saison qui reste à jouer, mais surtout peut-être la saison prochaine, parce que l'idée, ça serait peut-être de le conserver à ce joueur d'expérience.
Oui, sur le papier, moi, il me semble que c'est une bonne pioche, mais maintenant, ce joueur, il a un petit peu des difficultés extra-sportives. Alors, est-ce que dans sa tête, ça va bien fonctionner? Il vient un petit peu pour se racheter, apparemment, d'une certaine conduite.
Oui.
Est-ce que sur le terrain, ça va se traduire par un jeu attendu, en tout cas léché et comme un bon 10, ça reste à voir. Ça reste à prouver.
Écoute, comme on le dit toujours, affaire à suivre. Et puis nous, maintenant, on va se lancer dans le conseil de classe, alors. Et c'est la saison, hein, on est au début du mois de décembre dans tous les établissements scolaires de France, collèges, lycées, etc. C'est le fameux conseil de classe. Et puis nous, c'est l'occasion parce que effectivement, ce week-end, samedi et dimanche, oui, c'est ça, on jouait la 12e journée de top 14, mais surtout ensuite, on va entrer dans la coupure top 14 pour partir sur la phase Coupe d'Europe. Donc, ça peut être l'occasion de faire un petit peu un bilan très rapide par club, messieurs, de ce qui s'est passé depuis le début de la saison et puis les tendances, les tops, les flops, etc. etc. Je rappelle quand même que samedi et dimanche, donc on a joué la 12e journée de Pro D2, que Clermont s'est imposé de justesse 19-14 sur Montpellier, que Bayonne décidément continue à surprendre en tombant le loup 19-7. Le Stade Toulousain est venu à bout de l'USAB, bonus offensif à la clé 34-13. Pardon. L'UBB a finalement pris le dessus sur Brive 33-13 également avec un bonus offensif. La Rochelle n'a pas pesé bien lourd face au Stade français qui gagne avec une victoire bonifiée 27-14. Castres s'est vu les pierres pour s'imposer à Pierre-Antoine, enfin au Stade Pierre-Fabre maintenant, pardon, c'est un vieux qui vous parle, 26-22. Et quant à Toulon, Racing hier soir dans un match que j'oserais qualifier de moche, eh bien le Racing est allé faire le coup sur la rade s'imposant 31-14. Alors, on va pas commenter ces résultats, les garçons, mais moi, j'aimerais qu'on remonte le classement du bas vers le haut. Et peut-être dans votre conseil de classe, je vais commencer par Manu, ben, les élèves qui nous inquiètent après ce premier trimestre, peut-être sont-ils déjà dans la charrette de la descente. Je pense d'abord en priorité à Brive, qui vraiment est en difficulté, et puis l'USAB, malgré son cœur, qui a du mal à décoller.
Oui, enfin Brive, c'est pour moi c'est pas une surprise. Hein. On en avait déjà parlé il y a quelques temps. Cette année, ça va être compliqué. Ils ont, si on regarde le classement, ils commencent à avoir du retard sur l'USAP. Le seul avantage qu'ils ont sur l'USAP, c'est qu'ils vont les recevoir puisqu'ils les ont battus au match aller. Mais l'USAP a l'habitude hein, de ce genre de situation. Et moi, j'ai regardé un petit peu le calendrier. L'importance des doublons pendant le tournoi, ça va avoir son importance pour ces clubs, puisque effectivement, quand on va rencontrer des équipes qui seront déficitaires de leurs internationaux, ça va peut-être aussi se jouer là. Et puis si après on va le voir, on va commencer à regarder les autres équipes, mais on s'aperçoit qu'au niveau du classement, si on prend à partir de la 6e place jusqu'à l'antépénultième, on s'aperçoit qu'il y a très peu de points d'écart, donc rien n'est fait encore dans ce championnat. Tous les points vont compter, et à commencer pour Brive et Perpignan dès les prochains matchs pour essayer de recoller au wagon qui se trouve déjà à 7 points devant eux.
Ouais, Fred, rapidement sur Brive, peut-être un indicateur négatif, c'est le Brita Bonus qui est déjà à moins 11. Ça, c'est costaud quand même. Hein.
Ouais, et d'autant plus qu'ils avaient l'année passée gagné beaucoup de matchs à domicile. Cette année, ils en perdent énormément. Et comme tu l'as très bien souligné, donc au classement britannique, comme on dit aussi, ils sont déjà très 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 loin, ce qui n'est pas un bon signe. Le prochain match, ils vont recevoir Clermont qui a besoin de points aussi. Ils ne sont pas dans une bonne dynamique, ils perdent des matchs, ils ont un jeu qui est moins léché que l'année passée. Ils ont beaucoup plus de difficultés devant, donc... Ils sont à leur place, hein, malheureusement pour eux, je devrais dire.
Christian, très très vite sur l'USAP, tu corrobores ce que dit Manu, c'est-à-dire une équipe qui quand même est habituée à jouer ses matchs âpres, ouais. Et qui au final n'est pas autant larguée que ça, puisque si on regarde le classement de l'USAP, pour l'instant certes 13e, 18 points, donc ils sont entre guillemets, qu'à 7 points, alors c'est déjà beaucoup, mais qu'à 7 points du 12e, donc c'est pas non plus peut-être encore totalement rédhibitoire, mais ça pourrait devenir inquiétant.
C'est pas florissant, on va dire, pour le SAP, mais c'est moins dramatique que Brive. Et puis Perpignan, comme tu le soulignes, c'est une équipe qui sait jouer les matchs du maintien, entre guillemets. Et je crains qu'ils finissent quand même... 13e, pardon, donc premier, je pense qu'ils vont faire le barrage à moins d'un énorme sursaut, mais ce barrage, je ne suis pas trop inquiet pour eux. Ça va être compliqué pour une équipe de Pro D2 de les sortir.
Alors, comme le soulignait Manu il y a quelques instants, ce qui est assez notable aussi dans ce classement, c'est que de la 12e place à la 6e place, on a 4 points d'écart. Ça veut dire effectivement qu'une victoire, une défaite, et tu changes complètement de position. Cela dit, moi, ça m'a quand même permis de pointer, comme on le disait à l'ancienne avec le surveillant général, les avertissements de travail. Moi, je trouve qu'on attend mieux de plusieurs équipes. Il y a quand même des déceptions. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense à Castres, 12e, je pense à Clermont, 10e, je pense aussi à l'UBB, à Toulon qui dimanche soir est tombé sur sa pelouse en produisant un jeu assez indigent. Moi, c'est des équipes qui m'inquiètent un peu. Manu, est-ce que toi aussi tu partages mes envies d'avertissement de travail pour ces 4 formations que j'ai citées?
Oui, on peut être inquiet pour une équipe comme l'UBB. L'UBB qui devrait être dans les 3-4 premiers. On sait l'affaire Urios, on sait les problèmes Woki-Jalibert en intersaison. Ils sont pas à leur place, mais moi je me fais pas trop de soucis pour l'UBB. Je pense que l'UBB va remonter. Par contre, effectivement, et ça c'est assez récurrent, Clermont, hein, on attendait autre chose de Clermont. Le RCT également, qui maintenant commence à prendre 30 pions à la piole, donc c'est inquiétant. Ouais, ces équipes, c'est inquiétant. Par contre, Castres, vous faites pas de soucis. Castres, on les retrouvera encore dans les 6, à n'en pas douter. Je pense qu'ils seront capables de nous faire une remontada comme ils en ont l'habitude.
Ouais, j'ouvre une parenthèse sur Castres. On compte bien arriver à faire venir notre copain Florent Larios, responsable des sports à la dépêche du midi à Albi et sur le Tarn, pour que justement on fasse un petit spécial Castres Olympique. Fred, est-ce que tu crois justement qu'un gars comme Bigard peut essayer de remettre, à lui tout seul ça sera difficile, mais est-ce qu'il peut apporter un peu ce souffle qui pourrait remettre sur les rails un petit peu le RCT?
Oui, bon, si on regarde son pédigré, incontestablement il va apporter quelque chose. Maintenant il faut qu'il rentre dans le système de jeu de Toulon. C'est pas évident de passer du Pays de Galles avec des habitudes particulières au championnat britannique, gallois britannique, mais à vérifier sur le terrain.
Ok, à vérifier sur le terrain. Christian, juste un mot, toi, sur Clermont, le mystère Clermont, là, pour conclure sur les avertissements de travail. Là aussi, ça pédale dans la semoule, le côté Michelin. Hein.
Oui, clairement, je me fais du souci pour eux parce que cette équipe ne produit pas grand-chose. C'est toujours un peu à l'arrache, leur victoire, là, notamment la dernière contre Montpellier. Je les trouve plutôt dans le bas de tableau parce qu'ils ont perdu une charnière complète. On sent que les remplaçants n'ont pas le même niveau. Ils font un mauvais début de saison, mais c'est peut-être aussi par rapport au niveau réel de cette équipe.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement une année de transition, Manu, pour l'OSM aussi, avec ses départs qu'il y a eu en fin de saison, ses arrêts de carrière, un gars comme Parra qui n'est plus dans le club? Est-ce que quelque part, on n'est pas dans une sorte de transition?
Oui, oui, peut-être, mais rappelle-toi, la saison dernière, c'était aussi compliqué, déjà pour Clermont, ouais. Malgré le fait qu'il y avait encore Lopez et Parra. Je pense que Clermont, voilà, il y a une fin de cycle depuis les départs des commandes historiques, hein, des Rougeries et compagnie. Et je pense que Clermont, ils ne se sont pas relevés encore de tout ça et ça va mettre encore du temps. Hein.
En parlant de Camille Lopez, tu m'amènes à changer de catégorie. Moi, j'allais appeler cette catégorie les bonnes surprises à notre conseil de classe, que j'aurais envie au moins de gratifier. Je ne sais pas si on met des compliments, si voire on va même jusqu'aux félicitations. C'est les équipes pour qui le travail paye. Et la première qui me vient à l'esprit, elle occupe actuellement la 7e place. Alors, on a bien vu que cette 7e place, elle était très relative en raison du classement très, très serré. Mais c'est quand même l'Aviron Bayonnais, tout droit remonté de Pro D2. Et qui, notamment, peut-être, Manu, le secret, c'est le fait qu'il soit intraitable à domicile.
Ah oui, c'est une citadelle imprenable, Jean de Gea. Et puis, moi, une petite indiscrétion, moi, pour les avoir croisés sur le retour de Castres, sur une aire d'autoroute, alors qu'ils avaient perdu en ayant produit du jeu et en ayant perdu sur la fin, on sentait quand même une équipe assez sereine quand même. Moi, je les ai trouvés assez sereins quand même, malgré le fait qu'ils revenaient avec zéro point. Et je me suis dit, ces types, ils forment une équipe là et je pense que ça va être compliqué de les taper. Et chez eux, c'est très compliqué. Ils battent tout le monde, même les gros. Donc, en gagnant à domicile, ils seront tranquilles pour une saison de remontée. C'est pas mal quand même.
Ouais, et par contre, en parlant de remontée ou de renversement de vapeur, Christian, il y a une équipe qui nous a fait peur en début de saison, c'était Pau, qu'on ne reconnaissait pas par rapport à ce qu'elle avait pu produire auparavant. Et là, il semblerait qu'on a retrouvé une certaine carburation, Christian, du côté de Pau. Bonne série, 3 victoires de rang. Il a failli avoir une quatrième dimanche après-midi. Et ça s'est joué à un cheveu parce que, franchement, Castres a eu vraiment très, très chaud. Il a fallu tout le talent de Botitou en fin de match dimanche pour ramener la victoire du côté du CO.
Il a fallu un petit miracle pour le CO parce qu'il y a eu un essai de Pau qui a été refusé pour un an avant qu'on n'a encore pas vu. C'est vrai. On a eu beau regarder dans tous les sens. Ils ont décrété que Pau n'avait pas marqué. C'était le tournant du match, hein, puisque là, ils faisaient le break complet sur le CO, ce qui aurait été mérité, hein, malgré. Bon, j'aime l'équipe de Castres, hein, de par mes origines, mais il faut reconnaître que cette équipe paloise. Elle est brillante, elle a de la qualité cette année, elle envoie du jeu, elle gagne à l'extérieur, chez elle, elle est compliquée à jouer. C'était au départ un candidat soi-disant au maintien. Pour moi, c'est plutôt un candidat au top 6 qui continue dans ce sens-là.
Eh bien, écoute, on va voir ça. Tiens, moi, je voudrais changer de catégorie parce qu'on va là, on se rapproche du top 6 puisque tu en parles, Christian, tu me tailles une perche. Fred, dans le top 6, moi, je vais dire un top 6 sans surprise. Mais avec des déceptions, à commencer par exemple Lyon, qui, malgré le matos et les ambitions affichées, reste encore très irrégulier. Qu'est-ce que tu en penses,
Fred ? Ça manque de constance, moi. Et ce qui explique un peu leur classement. Et des fois, même à la maison, hein, ils ont du mal, des fois, à gagner. Ça se fait toujours un petit peu à l'arraché. C'est pas une équipe qui a une assurance technique comme on la voyait l'année passée. Bon, peut-être aussi, il y a encore des réglages. Garbajosa, il est quand même là depuis peu de temps. Donc,
Justement, tiens, Manu, une autre équipe qui déçoit un peu, peut-être qu'ils ont du mal à digérer le titre, c'est Montpellier. Montpellier qui, moi, me semble un petit peu décevant, même si 5e, 29 points, il n'y a pas le feu à la maison, mais on aurait pu attendre plus du champion de France en titre.
Oui, bah on attend toujours plus hein, du champion de France, mais Montpellier, c'est un peu sur courant alternatif, hein, comme tu l'as dit. Ça gagne à domicile superbement, puis après ça va se louper contre un présumé plus petit. C'est aussi dans la lignée de Lyon, c'est irrégulier, mais Montpellier, il n'y a pas de souci avec Saint-André. Je pense qu'ils vont à un moment donné remettre les choses à l'endroit et sera un candidat sérieux aux quatre premières places, à n'en pas douter.
Christian, une autre équipe qui fait partie de ces déceptions pour moi, alors que la Coupe d'Europe se rapproche et qui a un rang à tenir, ben c'est La Rochelle qui n'a pas encore retrouvé son lustre et sa prestance de la saison passée. Donc il manque peut-être quelques petites choses, mais on les a vues encore ce week-end du côté de Paris, dans la difficulté, et puis face à des Parisiens survoltés. Mais j'aimerais d'abord un mot de ta part sur La Rochelle.
Oui, La Rochelle, comme le souligne Manu, est aussi sur le courant alternatif. À domicile, ils ont explosé le Castres 53-7. Et puis, le week-end suivant, ils balbutient leur rugby. C'est presque incompréhensible. Alors, est-ce que c'est l'approche de la Coupe d'Europe qui fait que peut-être ils avaient la tête à moitié déjà sur les échéances européennes? Mais bon, ils sont un peu décevants par rapport au potentiel et à l'équipe. Hein. Il y a vraiment un matériel impressionnant dans cette équipe. Mais voilà, ça, pour le moment, ça ne veut pas tourner dans le bon sens.
Manu, bonne surprise pour le Stade français, troisième. Alors, est-ce que c'est quand même peut-être un peu trop précoce au regard du classement qui est très très serré pour tout de suite décerner des félicitations? Mais on peut quand même complimenter cette équipe qui a passé une saison très compliquée la saison passée et puis qui semble essayer de faire preuve de résilience un peu.
Oui, non, mais c'est quand on se rappelle des saisons passées du Stade français, les voir là où ils sont. Moi, pour les avoir vus jouer à Toulouse, où ils vont chercher un match nul, ils auraient dû même l'emporter. Non, le Stade français, ça sera à mon avis peut-être le poil à gratter là dans le top 6 par rapport à d'autres équipes. Il faudra se les taper. Et je pense que le Stade français, cette année, fera enfin, parce que depuis le temps qu'ils veulent le faire, enfin les phases finales.
Enfin, il nous reste une équipe dans ce top 6 sans surprise, c'est le Racing qui se replace, Fred, après son bon coup à Toulon dimanche soir. Sans faire de bruit, on a souvent, moi le premier, critiqué ou en tout cas été déçu par les prestations des joueurs du Racing. Est-ce que là, mine de rien, sans trop faire de bruit, sont en train de revenir, ou là pareil, le classement est trop serré pour tirer des décisions définitives?
Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont corrigé l'ASM, hein, plus de 40 points. Là, ils vont gagner à Toulon. Le jeu est visiblement maintenant bien en place. Puis ils ont de l'ambition. C'est une équipe qui est à sa place, logiquement. Alors, des fois, elle peut décevoir chez elle, parce que des fois, elle gagne difficilement. Puis après, ça se remet très vite dans le système attendu. Non, c'est une très bonne équipe avec des individualités remarquables hein, pour cette équipe.
Alors, en parlant de remarquables, quand même, Christian et puis Manu, tous les deux, pour conclure, vous avez une minute à deux à vous partager. Ben, c'est quand même le Stade toulousain qui, une fois de plus, quelles que soient les équipes alignées, essaie de faire face. Premier, je crois, 7 points d'avance sur le 5 points d'avance, pardon, sur le second, et déjà un Brida bonus à plus 16. Christian, Toulouse est toujours là.
Oui, et ils ont passé le mois de novembre de façon magistrale, parce que bon, avec 9 joueurs sélectionnés, c'était une période pour eux qui était assez dangereuse. Ils avaient déjà fait le plein avant de commencer justement cette zone. Donc là, ils ont de la marge. Il y aura le tournoi encore qui va les gêner au mois de février, janvier-février. Mais c'est une machine de guerre, quoi. Il faudra compter sur le Stade toulousain pour un nouveau bouclier, sans doute.
Manu, machine de guerre, Stade toulousain, ou ils sont prenables?
Les deux, on l'a vu, hein, ils sont allés perdre au Hameau, à Pau, ils sont allés perdre à Bayonne. Mais après, comme l'a dit Christian, ils ont quand même un réservoir quand même assez impressionnant. Toulouse, c'est quand même deux voire trois équipes, c'est quand même impressionnant. Hein. Et surtout quand pas les internationaux, comme l'a dit Christian, on en saura plus après les doublons pendant le tournoi. Mais Toulouse, oui, incontestablement, cette année, va encore viser le doublé, c'est sûr.
Eh bien, écoutez, messieurs, sur ces belles paroles et sur ce doublé, pourquoi pas, du Stade toulousain qu'il peut ambitionner, on va rendre l'antenne, souhaiter un bon appétit à nos auditeurs, à nos auditrices fidèles de RCF. Je rappelle ce week-end que vous pourrez retrouver du rugby sur Vibré Rugby. Il y aura un USC Nevers vendredi soir. Et samedi, il y a Narbonne qui va à Dax. Manu, j'imagine que tu es dans les starting blocks pour cette rencontre. Et Albi recevra Cognac. D'ici là, chers amis, portez-vous bien et on embrasse tout le monde. À très vite.